Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Vous évoquez ce matin la Pologne qui inquiète le reste de l'Europe.
Oui, effectivement, la Pologne pourrait se retirer de la Convention d'Istanbul, ce traité européen contre les violences faites aux femmes, adopté en 2011 par le Conseil de l'Europe, qui réunit 47 pays européens. Alors, il y a quelques jours, le ministre de la Justice polonaise, Zbigniew Ziobro, a déclaré qu'il allait proposer d'entamer une procédure de retrait de ce traité. Est-ce que cette proposition va aboutir? Rien n'est sûr pour le moment. Pour le PiS, le parti polonais au pouvoir, aucune décision n'a été prise. Le ministre a son opinion. S'il présente cette proposition, nous l'analyserons. C'est ce qu'a simplement déclaré la porte-parole du parti Anita Czerwińska. En Europe, en tout cas, de nombreuses voix s'inquiètent déjà. On le lit notamment dans le journal anglais The Guardian. Iratxe García Pérez, leader espagnol du groupe socialiste au Parlement européen, qualifie cette décision de scandaleuse. Le député européen belge Guy Verhofstadt affirme quant à lui que la violence n'est pas une valeur traditionnelle, sous-entendu, de l'Europe. Le journal The Guardian nous rappelle d'ailleurs qu'en Pologne, le traité avait été signé par un précédent gouvernement centriste en 2012. Il avait été ratifié 3 ans plus tard.
Pourquoi alors aujourd'hui le ministre de la Justice polonais en a-t-il tellement après ce traité?
Alors le journal italien La Repubblica écrit que Zbigniew Ziobro, donc le ministre de la Justice polonais, au sein du PiS est considéré comme un faucon, un leader de l'aile dure. Pour lui, je cite, l'accord international est inspiré par les idéologies du lobby LGBTQ. Il estime par ailleurs que ce traité est inutile. Il affirme que, je cite toujours, il suffit de lire les saintes écritures pour savoir qu'on ne bat pas une femme. On n'a pas à adhérer à une convention animée par des idéologies déformées. La Convention d'Istanbul, dans son article 4, évoque effectivement la nécessité de protéger les droits des victimes sans discrimination aucune fondée notamment sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Alors est-ce que c'est ce type de disposition qui fait peur au gouvernement polonais? À cet égard, le Portugal News affirme que le président polonais Duda a fait de la rhétorique homophobe la pièce maîtresse de sa campagne de réélection, promettant notamment de défendre les enfants contre l'idéologie LGBT, fin de citation. Dans le journal polonais Rzeczpospolita, on peut lire une défense du ministre de la Justice. Pour l'éditorialiste Tomasz Pietryga, il est injuste de dire que celui qui est contre la Convention d'Istanbul est favorable à la violence contre les femmes. La Convention, écrit-il, oblige les États à créer des organes et des structures indéfinies, composés d'activistes et d'experts d'ONG, pour traiter ce problème de la violence. La mise en œuvre de ces dispositions en Pologne, poursuit l'éditorialiste, a été estimée à 200 millions de zloty, la monnaie polonaise. Les contribuables financeraient ainsi quelque chose de vague et d'incontrôlable. Ce n'est pas un bon investissement de l'argent public, peut-on lire. Alors même si on ne sait pas encore, je le rappelle, si le ministre de la Justice polonais sera suivi vraiment par le gouvernement, ses propos en tout cas ont fait descendre beaucoup de monde dans les rues du pays. Vendredi, ce sont environ 2000 personnes qui ont manifesté à Varsovie à l'appel d'organisations féministes pour protester donc contre cet éventuel retrait de la Convention d'Istanbul. Le journal italien Il Fatto Quotidiano rappelle que ce type de rassemblement peut porter ses fruits, ça a déjà été le cas en Pologne. Il y a quelques mois, écrit-il, en pleine urgence sanitaire, le parti polonais conservateur au pouvoir avait présenté 2 projets de loi visant à interdire l'éducation sexuelle à l'école et à rendre illégale l'interruption volontaire de grossesse. Ces réformes avaient été bloquées grâce aux protestations dans tout le pays.
Partons maintenant pour la Corée du Nord, où un premier cas officiel de coronavirus a été annoncé.
Oui, on dirait que le vicieux virus est entré dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant Kim Jong-un, cité hier par l'agence officielle KCNA. La ville de Kaesong, ville nord-coréenne, a été placée en confinement total. La personne affectée a été placée en quarantaine. Et toutes celles qui sont entrées en contact avec cette personne font l'objet d'une enquête approfondie. Jusqu'à présent, la Corée du Nord affirmait ne pas avoir de cas de coronavirus sur son territoire, affirmation contestée par des experts. Pour le journal américain Detroit News, la Corée du Nord a, au début de l'année, fermé la quasi-totalité du trafic transfrontalier. Elle a interdit les touristes étrangers, elle a mobilisé les travailleurs de la santé pour mettre en quarantaine toute personne présentant des symptômes. Mais cette fermeture de la ville de Kaesong, écrit le journal, est la première mesure connue prise dans une ville nord-coréenne pour endiguer la pandémie. Autre question, qui est cette fameuse personne infectée? Pour la Corée du Nord, il s'agirait d'un fugitif qui s'est rendu en Corée du Sud il y a 3 ans et qui est donc revenu dans le Nord il y a quelques jours, réussissant à franchir cette frontière très lourdement fortifiée qui sépare les deux pays. Est-ce que tout cela est crédible? Peut-être bien. En tout cas, c'est ce que l'on peut lire dans le journal sud-coréen en langue anglaise qui s'appelle Korea Herald. L'armée sud-coréenne a déclaré hier que quelqu'un avait peut-être traversé la frontière intercoréenne pour se rendre en Corée du Nord. Et cela confirmerait donc ainsi l'affirmation du régime de Pyongyang, selon laquelle un transfuge serait rentré chez lui il y a une semaine avec des symptômes de Covid-19. Les militaires de Séoul, en examinant la demande, ont déclaré qu'une personne semblait être passée au Nord. Mais ces militaires ne l'ont pas pour le moment identifié comme le transfuge mentionné par le Nord. En tout cas, si effectivement cet homme a fait, comme ceci, des allers-retours entre le Sud et le Nord, plusieurs ministres sud-coréens pourraient se retrouver en situation délicate. C'est ce que l'on peut lire dans le Korean Herald.
Merci, Ilan Malka. Votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.